Il a été le premier ethnologue de la Nouvelle-Calédonie.
Extrêmement familier avec les îles du Pacifique et avec leur art, je souhaiterais que vous me présentiez, en somme, l'art d'Océanie.
Ce qui caractérise l'art en Océanie, c'est d'abord ceci, c'est que l'art pour l'art n'existe pas. L'art est dans la vie. Et en toute chose, la primauté est donnée à l'esthétique. Il en résulte un comportement général qui n'est pas sans valeur. Tout objet doit avoir son galbe. Tout acte, sa convenance, sinon son élégance.
Prénom ?
Maurice.
Nom ?
Lénard.
Sa date de naissance ?
Le 9 mars 1878 à Montauban, vieille citadelle protestante. Son père, le pasteur Franz, y enseigne à la faculté de théologie.
Un mariage ?
Avec Jeanne Michel, qui appartient à une grande famille universitaire protestante. Elle partagera son esprit missionnaire, puis ses recherches ethnologiques.
Et donc, une mission ?
C'est en Nouvelle-Calédonie, trois longs séjours jusqu'en 1930, avec l'installation dès 1902 dans la station d'évangélisation de Doneva, Grande Terre. Écoute, les indigènes lui avaient recommandé son père. Les Lénards vont porter une attention particulière aux langues kanakes qu'ils feront apprendre à leurs cinq enfants. Leur grande aventure, c'est la traduction collective du Nouveau Testament en langue du pays Wailou.
Mais une mission en temps de colonisation.
Oui, Lénard s'inscrit dans une optique de réformisme colonial. Et il agit dans un archipel définitivement composite. Sa notion d'esprit commun, qui pourrait fédérer les différents groupes de l'archipel, servira de base aux accords de paix en 88-98.
Et une mission qui le mènera à l'ethnologie ?
Marcel Mauss, qui va devenir son maître et auquel il va succéder à l'école des hautes études à Paris, lui a toujours fait observer que l'archipel était une vraie terre d'élection pour l'observateur passionné d'archéologie préhistorique, de linguistique, de sociologie. Et les deux derniers séjours de Lénard et de sa femme sont des missions scientifiques avant et après la Deuxième Guerre.
Ses œuvres principales ?
Jean de la Grande Terre, 1937, et 10 ans plus tard, le très discuté Docamo, sous-titré « Personne et mythe chez les Mélanésiens ». Alors autant les habitants les plus divers de la Nouvelle-Calédonie peuvent se retrouver dans l'idée d'échange culturel que défendait Lénard, autant les ethnologues se disputent autour de sa conception du mythe. Les habitants anciens de la Nouvelle-Calédonie vivaient-ils vraiment dans un perpétuel présent sans histoire ?
Et sa mort ?
Janvier 1954, il n'aura pas pu, l'année précédente, intervenir comme il l'aurait souhaité dans les manifestations du centenaire de la présence française en Nouvelle-Calédonie.
France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun.
Sachez, Monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier ?
La répétition des consultations électorales en Nouvelle-Calédonie. Elle a au moins l'avantage de nous faire revenir sur le passé de l'archipel que Lénard considérait comme extraordinaire, hors norme. Avec la présence, maintenue presque miraculeusement, du peuple kanak, l'un des plus vieux de l'humanité, avec des Mélanésiens venus des îles dispersées dans l'immense Pacifique, avec des Européens arrivés pour des raisons très diverses, les plus nombreux ayant leur mort au cimetière, mais les autres, les oreilles, surgis plus récemment. Le travail d'ethnologue de Lénard s'est enraciné dans une expérience missionnaire qui l'a précédé, dans la Grande Terre, l'île principale de la Nouvelle-Calédonie. Expérience missionnaire qui, complexité supplémentaire, s'inscrivait dans le cadre historique de la colonisation qui, dans l'archipel, a commencé sous le Second Empire en 1853 pour se prolonger sous la République.
La radiodiffusion française présente Centenaire de la présence française en Nouvelle-Calédonie.
L'amiral Février des Pointes soi-même.
Aujourd'hui, 24 septembre 1853, à 3 heures de l'après-midi, en vertu des ordres de mon gouvernement, Je prends officiellement possession, au nom de l'empereur et pour la France, de l'île de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances, sur laquelle je fais arborer le pavillon national. Et je déclare à tous qu'à partir de ce jour, cette terre est française et propriété nationale.
C'est donc une fête de famille que nous célébrons tous ensemble, le centenaire de noces nationales, la confirmation d'un don mutuel, l'acte de volonté consciemment renouvelée d'unir deux héritages historiques et culturels en une communauté de destin indissolublement établie.
Une communauté de destin, c'est une expression qui affleure donc déjà au moment du centenaire de l'arrivée des Français. Lénard, qui va disparaître l'année suivante, en 54, n'est pas étranger à cette formule. On va la retrouver, répétée plus d'une fois, destin commun. Dans les accords de paix, Matignon 88, Nouméa 98, que toutes les parties seront d'accord pour signer et qui organisent depuis le processus de sortie de la colonisation.
La décolonisation est le moyen de refonder un lien social durable entre les communautés qui vivent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, en permettant au peuple Kanak d'établir avec la France des relations nouvelles correspondant aux réalités de notre temps. Les communautés qui vivent sur le territoire ont acquis par leur participation à l'édification de la Nouvelle-Calédonie une légitimité à y vivre et à continuer de contribuer à son développement. Elles sont indispensables à son équilibre social et au fonctionnement de son économie et de ses institutions sociales. Si l'accession des Kanaks aux responsabilités demeure insuffisante et doit être accrue par des mesures volontaristes, il n'en reste pas moins que la participation des autres communautés à la vie du territoire lui est essentielle. Il est aujourd'hui nécessaire de poser les bases d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie permettant au peuple d'origine de constituer avec les hommes et les femmes qui y vivent une communauté humaine, affirmant son destin commun.
Maurice Lénard, à qui les différents signataires des accords faisaient explicitement référence, disait que la garantie de l'avenir, c'était la compréhension réciproque. L'indigène, comme on disait, avant d'être repoussé dans les régions reculées, avait disposé en terrasse le flanc des montagnes, laissant l'herbe tapisser le sol et amortir le courant des eaux de pluie. L'Européen avait créé les industries de grande métallurgie et le port de Nouméa, par lequel passaient les richesses nouvelles. Les uns et les autres ont des titres à faire valoir. Mais revenons en 1902, l'arrivée du couple Lénard à Nouméa, après un voyage de 6 semaines sur le Polynésien. Jeanne Lénard, comme Maurice, s'en vont vers les indigènes, on parlait ainsi à l'époque, pénétrés d'esprit missionnaire. Rester pasteur en France hexagonale dirait-on aujourd'hui, c'est risquer de n'être plus missionnaire, tandis que devenir missionnaire, c'est sauver le pasteur. L'arrivée au pied de la montagne qui plonge dans la mer, c'est un éblouissement. Mais de suite, l'enthousiasme des nouveaux arrivants est douché. Hassan Roulous, c'est un Kanak matiné de Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Nouvelle-Calédonie, c'est un carrefour dans le Pacifique. Et il est pénétré d'un total respect pour Monsieur Lénard et il sait bien les circonstances de son arrivée et de son entrevue avec le maire de Nouméa.
Le maire, à l'époque, dit « Monsieur Maurice Lénard, vous venez ici en Nouvelle-Calédonie, les Kanaks vont mourir dans 10 ans. Ils sont en train de mourir avec l'alcool, avec la colonisation, avec nos maladies qu'on a apportées ici. On va les exterminer. » Et ce monsieur a su parler aux Kanaks pour dire « Attention, faites attention à l'alcool. » Gérer l'alcool, parce que c'est pas votre culture, c'est pas votre civilisation l'alcool. Et c'est ça qui a tué nos anciens à l'époque. Et parce que son premier combat, c'était l'alcool, avant de parler de religion. Je pense que M. Maurice Lénard était très très dur avec les Kanaks à l'époque, en passant par les langues et en passant par l'église. Il disait beaucoup aux Kanaks de faire attention à l'alcool, parce que vous êtes en nouveau... Vous buvez, vous n'êtes plus conscient, vous signez des papiers, il y a des spoliations de terres, vous perdez vos terres. Il y a des bannières qui viennent, des prisonniers anciens bannières qui sont libérés maintenant, qui prennent vos places. Vous êtes dégagés dans les montagnes par force, ou, etc. Et souvent, M. Maurice Lenard a fait beaucoup de travaux sur ça.
Combien restait-il de Kanaks à l'époque ? 10 000 ? Après l'écrasement de leur révolte de 1878, ils semblent devoir s'éteindre d'eux-mêmes. Longtemps, le peuplement blanc, lui, a été assuré par l'administration pénitentiaire, puisque la Nouvelle-Calédonie est devenue un bagne sous le Second Empire. Les bagnards libérés se voyaient attribuer des terres, autant de moins pour les Kanaks. Tel gouverneur, Fayet, par exemple, qui administre l'archipel à la veille de l'arrivée de Lénard, peut, à l'inverse, choisir de faire venir par priorité des colons libres. L'objectif, dit Fayet, serait de fermer le robinet d'eau sale, le bagne, et d'ouvrir le robinet d'eau propre, la colonisation libre. Mais là encore, les terres vont être trouvées au détriment des Kanaks. Un code de l'indigénat a été mis en place qui contrôle strictement leur circulation et les cantonne dans des réserves inhospitalières qui constituent comme un archipel dans l'archipel. En 1902, les Kanaks ne détiennent plus guère de 10% de la Grande Terre, ce qui les désespère puisqu'ils perdent non seulement des ressources, mais aussi les tertres des ancêtres. Les conflits de voisinage avec les Blancs ne cessent pas. La scène que voici, tirée d'un film d'Alain Nogues, se tient dans la maison d'un nouveau propriétaire blanc à cette époque.
Qui êtes-vous ?
Le vieux est là pour parler.
Paquet là, c'est quoi ça?
C'est sa marque de respect. Le lien entre ta famille et cette terre.
Je vous écoute.
Prends la côté. Tu l'as dans les mains. Relève-toi et baisse les yeux. Quelqu'un t'a aperçu débrousser la forêt là-bas. Le vieux a dit, personne n'a le droit d'aller là-haut.
Dégagez de là. Dégagez de là.
Personne n'a le droit d'aller là-haut.
C'est chez moi ici. Vous voulez vous prendre une balle dans la tête ? Dégagez !
C'est dans ce climat qu'arrive Lénard. Il est protégé par le gouverneur Fayet, qui est en train d'achever son mandat. Fayet a été nommé par un gouvernement anticlérical. Alors il soutient mécaniquement les missions protestantes, mais les missions catholiques sont à peu près aussi puissantes que les protestantes. Lénard a été précédé en Grande Terre par des natas, des évangélistes protestants venus des îles Loyauté et qui ont en quelque sorte préparé le terrain qu'il lui revient maintenant d'arpenter et d'organiser. Frédéric Rognon a fait sa thèse sur Lénard. Il a publié un livre sur lui aux éditions Olivetan. Pasteur protestant lui-même, il est professeur à la faculté de théologie protestante de Strasbourg.
Alors, Maurice Lénard, on a des photos hein, d'archives, on voit que c'était un homme grand, avec un certain embonpoint, hein, il pesait 110 kilos, donc un homme d'une grande stature, et puis surtout ce qu'ont retenu, et on le voit aussi sur les photos, ce qu'ont retenu c'est ceux qui l'ont connu, je pense notamment à Jean Guiard qui en a beaucoup parlé, c'était son regard, c'était le regard d'une lumière extraordinaire, disait Jean Guiard, hein. Quand il vous regardait, il vous illuminait, donc voilà, il avait une manière très incisive et en même temps très bienveillante de regarder son vis-à-vis. Également un rire sonore, il riait, il parlait fort. et en même temps une grande douceur. Donc c'est tout dans l'ambivalence. Hein. À la fois, c'est un homme qui écoutait. Hein. Pour faire son œuvre d'ethnologie, il a fallu qu'il écoute beaucoup et qu'il prenne au sérieux ses interlocuteurs. Et en même temps, quand il avait quelque chose à dire, eh bien, il le disait avec force et conviction.
Alors, on n'a pas parlé de son cheval. Donc, Lénard, il circule à cheval.
Alors, il circule à cheval parce que la Nouvelle-Calédonie, au début du XXe siècle, n'est pas du tout praticable autrement qu'à cheval ou en chaloupe. Hein, pour aller d'un lieu à l'autre, c'est parfois plus facile de prendre un petit bateau pour faire le tour de l'île. Mais pour aller dans la chaîne centrale, il n'y a que le cheval. Hein, il n'y a pas de route. Il n'y a que Nouméa et les alentours de Nouméa qui sont praticables. Donc, il va beaucoup sillonner la Grande Terre à cheval pour aller dans les lieux les plus reculés, là où des pasteurs sont placés pour évangéliser la population.
Mais il faut au couple Lénard choisir tout de même un lieu, une station. Ils deviennent une référence. La fille et l'héritière d'un colon leur donnent un terrain de 20 hectares en Grande Terre, non loin de Wailou. Et plus tard, la société Le Nickel leur cédera 500 hectares, dont une centaine de terres arables. Et le lieu sera baptisé Doneva.
Pourquoi choisir Doneva? Doneva se situe sur la côte est, à Wailou, de la Nouvelle-Calédonie. Et à l'époque, quand ils ont voulu faire évangéliser toute la Grande Terre, ils ont d'abord choisi ce lieu.
À Doneva, autour du Bounia, on parlait Wailou, Lifou, anglais, français, tahitien, diversité des langages, Babel ou Pentecôte.
Comment pouvons-nous construire ensemble cet édifice qu'est l'Église du Christ au sein d'abord d'une même Église, avec plusieurs ethnies, plusieurs mentalités différentes, à travers une histoire qui nous déchire? La question est très très difficile parce que l'histoire a fait de la Nouvelle-Calédonie un champ où je ne vois mal la réalisation d'une unité. C'est pourquoi la question donc que je me pose, quelle est la signification de cet évangile ici en Nouvelle-Calédonie, l'évangile qui unit, l'évangile de paix.
Il me dit d'aimer les uns les autres. Alors que comment aimer l'autre alors que l'autre ne me reconnaît pas du tout autant que Mélanésien. Il est là à me... Disons, je peux dire qu'il me renie beaucoup, autant que Mélanésien, autant que Kanak.
Matteo Gallo, qu'on va entendre, c'est un anthropologue d'une école neutre, l'Italie. Et il a son terrain non loin de Doneva, qu'il a arpenté à son tour.
L'endroit où je travaillais, c'est une forêt. Un jour des chemins de Ouaté, l'endroit où la tribu où je travaillais. Et c'est l'endroit où, jusqu'aux années 50, les habitants de Ouaté étaient enfermés à cause des maladies, du bêta qui arrivait sur les plateaux où ils vivaient avant. Et ils ont dû reculer pour des années là-bas. Et cet endroit-là, quand on y arrive, on voit les traces de ce passé. On voit les billons d'igname, on appelle les bonbonnières, les endroits où il y a des groupes de bambous et des bananiers. Et il y a des pétroglyphes cachés dans la forêt qui soulignent, par exemple, les passages dans la chaîne des populations avant la colonisation entre l'Est et l'Ouest du pays. Il migrait, on a des histoires, on peut retrouver dans la mémoire orale des histoires où il y a eu des grosses migrations entre la côte est et la côte ouest du pays. Et ces traces, on les trouve justement dans ces lieux-là, où cette mémoire elle est inscrite dans les passages. Et je trouve, par exemple, aussi que les pétroglyphes, c'était une de ces marques-là.
Donc vous avez fait le même chemin que Lénard dans ce domaine? Parce que lui, il a commencé en arpentant le pays, comme ça. Et vous, c'était pas à cheval?
Non, c'était en Twingo.
À Doneva, Maurice Lénard dispose du soutien des Nata, ces indigènes évangélistes venus des îles Loyauté, mais il parle le marais, ce n'est pas la langue pratiquée par les voisins de la station. Alors Lénard va recruter parmi ceux-ci des apprentis pasteurs, faudrait mieux dire des hommes d'initiative spontanée, qui vont être ses coopérateurs dans le grand œuvre qu'il entreprend, une traduction des évangiles en langue locale.
C'est ce qu'il appelait le culte des ardoises, c'est-à-dire qu'il y avait eu un culte qu'il avait lui-même présidé le matin, le dimanche matin, en français. Il prêchait en français, et ensuite, l'après-midi, il réunissait ses élèves et il leur demandait comment est-ce qu'ils pourraient traduire tel ou tel concept dans leur propre langue. Et donc, les élèves qui venaient de différentes aires linguistiques donc discutaient entre eux pour voir quel pourrait être le mot qui convient. Donc, c'était un travail collégial hein, de traduction. Et Maurice Lénard ne faisait que encourager ce travail pour que le terme le plus adapté puisse être proposé. Je peux peut-être vous donner un exemple qui est assez frappant. C'est pour traduire le terme de rédemption en langue kanak, ça ne va pas de soi, même en français d'ailleurs. C'est pas évident de comprendre ce que c'est que l'œuvre du Christ hein, qui a sauvé l'humanité. Eh bien, il leur expliquait en français ce qu'il entendait par ce terme de rédemption, et puis il leur proposait de chercher dans leur langue un équivalent. Et il y en a un de ses élèves qui dit, ben voilà, il y a un arbre, un arbuste, que on plante après un combat sur le champ de bataille, après que le sang est coulé entre les soldats des tribus traditionnelles. On plante cet arbre et ensuite, une fois qu'il a absorbé tout le sang des soldats morts, alors on l'arrache et on le jette et ainsi le champ est purifié. Donc c'est un terme très concret, c'est Naoui, hein, un terme qui désigne un arbuste. Et c'est celui-là que je vous propose de prendre pour parler de rédemption. Et Maurice Lénard dit, mais c'est génial, c'est ça qu'il faut faire, c'est prendre des termes qui parlent à tout le monde, qui sont de la tradition, qui sont des termes très concrets, et qui vont pouvoir ainsi traduire des notions quelque peu abstraites de la théologie.
Alors, méthode géniale, elle ne va pas devenir générale parmi les autres missionnaires en Nouvelle-Calédonie. D'autant que la concurrence est vive entre les protestants et du côté catholique, les pères maristes, dont le style est plus clérical, ce qui importe davantage, c'est la personne du missionnaire, Hassan Roulou, qui vient, lui, du protestantisme.
Même aujourd'hui, par exemple, sur mon île à Lifou, il n'y a que deux églises catholiques sur l'île de Lifou, alors qu'on est à peu près à 25 000 habitants, et la plupart sont plus protestantes. Les protestants et les catholiques n'ont pas les mêmes méthodes de... Concrètement, par exemple, dans ma tribu à Siloam, dans la tribu, le dimanche, quand on évoque la prière, les protestants, on part sur l'humain. Déjà, le monde ancestral chez nous, dans le Pacifique, le lien avec les esprits, c'est très très fort. Et c'est pour cela que nos anciens, ils ont accepté aussi la religion, malgré le côté néfaste où on obligeait les Kanaks à parler français, que tu parlais pas ta langue. Et la force que Maurice Lénard t'a apportée, c'était de valoriser et pratiquer sa langue Kanak en priant un dieu occidental. Mais on passe par la langue Kanak. Et c'est là qui est innovant, et c'est là qui est plus intéressant, et surtout, c'est là qui est valorisant pour l'identité et la culture kanak à cette époque. Mais ce que moi je peux vous dire, c'est que nous, par exemple, aux îles Loyauté, la religion, elle est autant importante que la coutume kanak. Ils ont la même portée. Pour ça que Monsieur Maurice Lénard parle beaucoup dans son travail, dans sa théologie, il parle beaucoup de Dokamo. Il prend un mot, Dokamo, qui veut dire devenir homme, ou l'homme ou la femme qui va devenir adulte. Pour ça qu'on dit, il parle de Dokamo. De Dokamo, et ça, c'est la langue de Anju, Anjuaro, c'est Awailu, et etc. Apoya, c'est une région, il parle cette langue, et il a beaucoup travaillé avec cette région. D'où le mot Dokamo, il s'inspire du mot Dokamo. Dokamo qui veut dire en devenir. Et du coup, il s'inspire de ça, fait le lien avec la Bible, fait le lien avec le monde kanak. Il a su étudier une civilisation autochtone et apporter l'idéologie protestante et occidental. Il a marié tout ça, en fait. Et certes, M. Maurice Lenard est arrivé, au moins, il est arrivé au bon moment où il fallait poser les bons mots et qu'il fallait écrire déjà de la langue kanak. C'était encore en laboratoire, on va dire.
Mais vous dites spontanément, Monsieur Maurice Lenard, monsieur.
Spontanément, c'est normal. Si, pour nous, le peuple kanak, Maurice Lenard, c'est pas n'importe qui. On dit monsieur, comme on dirait madame, Jeanne Lenard, sa femme aussi. Faut pas oublier, si monsieur Maurice Lenard, là, il a fait son travail, c'est parce qu'il y a eu cette femme puissante, très très forte à ses côtés, pour l'encourager à aller de l'avant et à faire ses études. Parce que c'était aussi une étude pour lui d'observer les kanaks et puis passer le message de Dieu via la langue. Et c'était assez innovant à cette époque.
Inter. Intelligence, service.
Monsieur Lebrun, quels seront les rapports de Maurice Lenard avec l'administration coloniale ?
Ben, ils ne seront bons qu'avec les tout premiers gouverneurs qu'il a eu à fréquenter en Nouvelle-Calédonie. Les choses se gâtent ensuite assez rapidement. Mais en public, Lenard se contient parce qu'il faut éviter l'expulsion. Exaspéré de s'entendre sans cesse conseiller de restreindre son rôle au salut des âmes, c'est dans sa correspondance avec ses parents qu'il peut exprimer sa colère. Comment puis-je, en simple morale courante, m'opposer à ce que les indigènes volent des noix de coco si j'accepte qu'ils soient chassés de toutes leurs cocoteries ? Frédéric Rognon.
Alors, il constate les dégâts induits par la colonisation pénale, c'est-à-dire par le fait que l'on a déporté en Nouvelle-Calédonie des dizaines de milliers de bagnards, et une fois sur place, une fois qu'ils ont purgé leur peine, ils sont libérés, mais obligés de rester dans le territoire. Et donc, ils vont s'installer, prendre des terres aux Kanaks, et c'est ce qui va déclencher des révoltes, réprimés et ensuite des confinements des Kanaks dans des réserves. Alors le colon libre, c'est un peu différent puisque il n'a pas été bagnard, il vient de son propre gré pour bien valoriser ce territoire. Et donc Maurice Lenard a un regard un peu plus favorable vis-à-vis du colon libre, mais il voit aussi les excès, les abus de la colonisation libre, même si elle est certainement moins néfaste que la colonisation pénale. Mais ce qui importe pour lui, c'est que les aliénations foncières cessent. Or, elles sont toujours très très prégnantes hein, au début du XXe siècle, dans les années 1900-1910. Et donc, il cherche, vis-à-vis des colons, quels qu'ils soient, hein, quelle que soit leur origine pénale ou libre, il cherche à éviter que les colons continuent à empiéter sur les territoires traditionnels des Kanaks et qu'ils respectent donc au moins ce qui a été décidé, c'est-à-dire les réserves, hein, qu'ils n'empiètent pas sur le territoire des réserves. Et donc il a un regard assez ambivalent vis-à-vis des colons et lui-même sera menacé de mort à plusieurs reprises par des colons qui considèrent qu'il est trop proche des indigènes. Mais il a joué très finement, C'est-à-dire qu'il avait, à certains moments, il y avait un gouverneur qui lui était favorable à Nouméa, et donc il l'informait des abus, des exactions qu'il constatait, de manière à ce qu'il puisse dépêcher une enquête. Et lorsqu'il avait un gouverneur qui ne lui était pas favorable à Nouméa, alors il avait des amis à Paris, et il les prévenait pour que ses amis haut placés puissent faire pression sur le gouverneur.
Pendant la Grande Guerre, Maurice Lénard n'est pas mobilisé du fait de son âge et du nombre de ses enfants, 5. Il se retrouve seul pasteur protestant sur l'archipel. En 1914 et en 1917, deux campagnes de recrutement sont lancées par les autorités pour enrôler des engagés volontaires chez les Kanaks. Lénard veut adopter une position aussi difficile qu'ambiguë, en adhérant à ces campagnes, dans l'espoir, sans trop y croire, que la participation de nombreux Kanaks à l'effort militaire leur conférerait une nouvelle dignité et, qui sait, des droits. Une lettre à ses parents, datée de 1917, leur présente le point de vue de ceux que les autorités veulent recruter.
Ils demandent des précisions. Les Blancs défendent leurs terres, mais nous, quelles terres défendons-nous? Nos terres sont à la France, nous les rendra-t-elle? Je leur laisse espérer que oui. Mais l'administration va même jusqu'à utiliser pour le recrutement de volontaires dans les tribus non évangélisées de l'intérieur des polices, c'est-à-dire des indigènes réquisitionnés comme agents de police appartenant à d'autres tribus réputées plus civilisées. D'où la réponse des chefs concernés. Ce n'est pas vous qui commandez ici, vous venez toujours nous trouver pour la capitation, pour les amendes, pour la police, pour ci, pour ça. Nous en avons assez de vous, allez-vous-en. Menaces de tribu à tribu, tentatives d'intimidation à Koné, agitation sporadique dans toute la région. Il y a bien un refus de fournir des tirailleurs, compliqué d'anciennes rivalités tribales et de bévues des recruteurs.
En fait, la brutalité des méthodes employées va provoquer des révoltes sporadiques qui vont gagner en ampleur et devenir une véritable rébellion. La première depuis 1878, la dernière avant 1984. Le mouvement concerne surtout les derniers groupes païens, mais plusieurs tribus protestantes étant tentées de les rejoindre, Maurice Lénard exhorte au calme, sillonnant le territoire. Il prend le risque non seulement de perdre la vie, mais de devenir suspect aux yeux de nombreux Kanaks comme il l'était auprès de nombreux Blancs.
Au cours de la révolte de 1917, il écrit à sa femme et il communique dans une langue kanak, la langue andiak, qui est la langue de la région où ils se sont installés, qu'ils ont apprise tous les deux. Ils communiquent dans cette langue, ce qui leur permet de ne pas être compris par les Européens. Et il lui écrit en disant, voilà, en cas de disparition, voilà ce que tu dois faire avec les enfants, voilà ce que tu dois dire aux enfants. Donc il prévoit sa propre mort par assassinat. Et sa femme va donc assumer cette adversité. Ils auront 5 enfants qui vont grandir donc dans la brousse, en milieu kanak, en immersion complète, et qui vont apprendre la langue aussi. Donc c'est assez extraordinaire de voir quand ils vont revenir à Paris en 1926, ils vont s'installer rue Claude Bernard dans le quartier latin, 5e arrondissement de Paris. Et en plein Paris, ils vont continuer à parler en famille, entre eux, la langue andieu. À table, ils parlaient andieu. Donc voilà, ils se sont tellement immergés avec leurs enfants dans ce monde que une fois à Paris, ils continueront à s'exprimer selon ce qu'ils auront appris et ce qu'ils auront vécu.
Avant ce retour en 1926, Lénard avait mis le plus grand soin à témoigner équitablement au procès des rebelles. En 1919, mais comment rendre la justice en pareilles circonstances? Il part donc avec une réputation de marginal, et ce qui est piquant, c'est qu'il a cette même réputation en métropole. Il trouve mal sa place dans l'Église réformée de France, et sa fonction de pasteur, il va devoir l'inscrire dans une mission populaire en banlieue parisienne, mieux que dans le système des paroisses installées.
Monsieur Lebrun, Maurice Lénard ne va-t-il pas s'orienter de plus en plus vers l'ethnologie en s'inscrivant dans le sillage de Marcel Mauss?
Oui, ces lieux d'élection à Paris sont dorénavant la Société des Océanistes et l'École pratique des hautes études, où il remplace, en effet, peu à peu, Marcel Mauss. Marcel Mauss pratiquait la culture extensive, il s'intéressait beaucoup à la Nouvelle-Calédonie parce qu'elle lui apportait de nombreux éléments de comparaison dans ses travaux de synthèse. Lénard, lui, continue de procéder de manière intensive, en creusant son sillon avec des monographies toutes consacrées au seul archipel. En 1938, il s'y rend de nouveau, avec Jeanne, évidemment, mais pour un travail de collecte linguistique. Le couple doit rentrer en métropole quand la guerre se profile. Qui, en 39, peut imaginer ce qui va advenir de l'archipel reculé qui va être jeté dans la bataille du Pacifique? La France libre va en faire un des territoires qui assoit sa légitimité. Les Américains vont l'utiliser comme une base stratégique de première importance.
118 navires dans notre rade, c'est pas peu. La surprise a été générale et totale.
Quand les gens de Nama, ils ont vu tous ces gros Liberty là, arriver à charger. Là.
Ils ont débarqué tout de suite les camions en priorité pour débarquer leur matériel. Mais moi, je me souviens qu'en allant voir un peu du côté de la Vallée du Dire, là, j'ai vu, il y avait même des ducks amphibies, là. Il y avait un trafic incroyable.
Le jour de leur arrivée, à la Vallée du Tir, où je résidais, eh bien, on voyait ce nombre impressionnant de militaires qui se déplaçaient à pas de velours. Il n'y avait pas de clous sur leurs chaussures, comme nous en possédions pour nos fantassins, vous voyez. Un fantassin français, on l'entend venir, hein. Tandis que c'était des semelles crêpes. Alors à partir de là, c'est dans un silence absolu qu'ils se déplaçaient.
Oui, ils sont peut-être 1 million d'Américains à passer par l'archipel. On devine qu'ils ne sont pas longtemps restés imperceptibles. Quand Maurice Lénard et Jeanne font un nouveau et dernier long séjour à la fin des années 1940, la transformation est partout. Ils s'aperçoivent que leurs fonctions religieuses antérieures les ont empêchés d'assister jamais à un pilou. Le pilou, la fête dont ils savaient qu'elle durait plusieurs jours et plusieurs nuits, où on dansait jusqu'à entrer en transe, les ancêtres venant se mêler aux vivants dans la danse. Était-il encore temps de saisir ces musiques et ces danses ? Matteo Gallo, l'anthropologue italien, est un spécialiste des musiques de Nouvelle-Calédonie.
En restant sur le sujet de Lénard, c'était lui l'un des premiers dans cet effort de compréhension et de valorisation de certains aspects de la culture kanak, que l'une des premières enregistrements sur la musique ont lieu grâce au travail de Lénard, ethnologue. Et en même temps, la chose qui est intéressante est que c'est grâce aux missionnaires qu'on a certains enregistrements d'échanges généalogiques pendant ces rituels. Et c'est aussi à eux qu'on donne la naissance de taperas, qui sont les premières chants polyphoniques qu'il était des fois chanté dans les grosses cérémonies au lieu du pilou. Et qui maintenant ils sont considérés comme partie intégrante du patrimoine musical kanak, que c'est ces chants polyphoniques qui sont à plusieurs voix et qui sont très liés aux missions, surtout protestants.
Ce sont les missionnaires qui ont appris la technique polyphonique.
C'est ça, c'est les chants de l'église protestante. Et c'est des chants qui étaient chantés, qui sont toujours chantés en langue.
Matteo Gallo, lui, a assisté au pilou. Un poteau au centre d'un cercle, deux chanteurs qui tentent de transformer en chant les murmures de la nature, le souffle de l'eau. Non seulement cette tradition du pilou n'est pas morte, mais c'est par elle que les jeunes générations ont renouvelé les chants et la danse. Une date à cet égard revêt la plus haute importance. 1975, le festival Mélanésia 2000, où va se révéler un futur grand leader, Jean-Marie Djibaou.
À la base de ce festival, c'était un gros travail de recherche. Une recherche qui a mené Djibaou vers les différentes tribus, rencontrer les différents orateurs. Les orateurs, c'est les termes disons, qu'on utilise pour des vieux qu'ils ont une certaine mémoire généalogique et qu'ils ont aussi une légitimité pour chanter certaines généalogies. Les gros orateurs qu'ils chantent la généalogie. Et même, je pense, en faisant les liens avec Lénard, la chose qui est importante est que Lénard, c'est une des premières qu'il souligne l'importance dans le milieu kanak de la généalogie, c'est-à-dire du chemin qui est d'un homme, de la personne, connecte à la terre, au lieu.
Apôtre de l'enregistrement des autres, Maurice Lénard n'a pas, semble-t-il, beaucoup enregistré lui-même. Il est temps d'entendre un peu longuement sa voix, seulement entreaperçue en ouverture de cette émission. Nous sommes à la fin de sa vie et il parle des objets kanak qu'il a évidemment collectionnés. Beaucoup de ceux qu'il a laissés sont au musée du Quai Branly à Paris.
Ce qui caractérise l'art en Océanie, c'est d'abord ceci, c'est que l'art pour l'art n'existe pas. L'art est dans la vie. Et en toute chose, la primauté est donnée à l'esthétique. Il en résulte un comportement général qui n'est pas sans valeur. Tout objet doit avoir son galbe, tout acte sa convenance, sinon son élégance. Le plat en bois, sans aucune ligne, est considéré comme mal travaillé, mal fait, donc incapable de plaire aux dieux qui voient tout, incapable d'assurer leur bénédiction, il est nuisible, il est laid, il faut le jeter au feu. Il est difficile de faire une différence entre le social et le religieux. Lorsqu'un plat, une boisselerie quelconque, porte une figure d'ancêtre, vous pouvez dire qu'il est religieux aussi, parce que c'est la présence de cet ancêtre qui assure la valeur du plat et qui fait que tout ce qui sera fait avec ce plat réussira. De même, le masque est autre chose en sens qu'il représente un personnage. Un personnage, on ne peut pas le représenter de façon abstraite. Il faut donc se le figurer, il est là, sculpté, et on revêt le masque. Et lorsqu'un homme a revêtu le masque, il est investi de la personnalité que représente ce masque.
Mais ce sont des personnages vivants ou les morts ?
Ces personnalités, ce sont des personnages des ancêtres ou des personnages mythiques. Et c'est justement pour ça que l'autre prend une personnalité lorsqu'il revêt le masque. Et ces figures peuvent être très diverses, parce que ce peut être l'oiseau, ce peut être le crocodile, ce peut être une figure humaine, et ce peut mettre les trois choses combinées, car on connaît une très belle proue qui est ici au musée de l'Homme, une très belle proue de pirogue, qui est une tête de crocodile, mais avec des petits festons qui représentent des plumes, donc un crocodile à plumes, comme le serpent à plumes ailleurs, et en même temps, quelque part, il y a une face humaine. Or, si vous considérons la pensée de l'indigène, eh bien, l'ancêtre est à la fois crocodile, oiseau ou figure humaine.
Il est ce qui vit, Do Camo, ce qui est vivant, le maître-livre de 1947 de Maurice Lénard. Le camo, tour à tour oiseau, poisson défunt, peut tour à tour voler, nager, disparaître sous terre. Dans les contes, il change d'aspect, mais pas d'état. Lénard soutient pareillement que dans les contes, chaque moment est juxtaposé aux autres pour n'en composer au fond qu'un seul. On l'entendait employer le mot mythique. Qu'un seul temps, un temps mythique. L'indigène y est englobé un peu comme dans une gangue, qui serait un présent perpétuel, sans entrée par le passé, sans sortie vers l'avenir.
Alors la gangue, effectivement, fait référence au végétal. Le végétal est à la fois très présent dans l'expérience quotidienne de la culture kanak et dans la manière de s'exprimer des Kanaks, hein, qui par exemple ont le même terme pour parler du sang et de la sève, et de la peau et de la peau humaine et de l'écorce de l'arbre. Donc il reprend une manière de raisonner et de s'exprimer des Kanaks, hein, qui est très végétalisée, si j'ose dire. Et il considère que le Kanak d'avant la colonisation, d'avant l'évangélisation, vit dans une gangue tribale qui le corsette en quelque sorte, hein, et qui l'empêche donc de se projeter dans l'histoire et de se dégager du monde naturel qui l'environne, et que c'est l'évangélisation, c'est la conversion au christianisme qui va faire éclater cette gangue pour l'amener à une conscience morale et qui va lui permettre d'être un être humain épanoui et en authenticité vis-à-vis de lui-même. Alors, il faut faire attention, ça ne veut pas dire qu'il considère que la colonisation va permettre aux Kanaks de se civiliser. Il considère que c'est la conversion au christianisme qui va permettre aux Kanaks, non pas de devenir des Européens, mais de devenir vraiment eux-mêmes. Il est très méfiant vis-à-vis de la colonisation en dehors de l'évangélisation.
Oui, la colonisation a provoqué une perturbation. La conversion, c'est comme une réanimation, puisque Jésus est entré dans le même temps que les Kanaks. Il a requalifié leur passé. Il ouvre à un avenir. Le Kanak converti s'échappe du temps mythique pour pénétrer dans le temps historique. Alors, Lénard appartient à un courant du christianisme, on va dire le christianisme social, qui insiste sur le progrès que permet l'individuation. Nombre d'ethnologues vont demander, mais cet optimisme un peu récupérateur ne mérite-t-il pas le scepticisme? Pourquoi un indigène converti devient-il nécessairement supérieur à celui qui ne l'est pas? Frédéric Rognon, toujours.
Oui, alors là, au sein de la planète des ethnologues qui travaillent en Nouvelle-Calédonie, il y a des débats, il y a des clivages, évidemment, hein, et il y a notamment de la part d'Alban Bensa, qui vient de nous quitter, hein, qui vient de décéder. Alban Bensa s'était élevé effectivement contre la tradition Lénard, hein, on va dire ça comme ça, considérant qu'il y avait des présupposés théologiques dans son ethnologie, qu'elle était donc grevée de présupposés qui étaient totalement étrangers à la culture kanak. Inversement, un ethnologue qui est aussi décédé il y a peu de temps, il y a quelques années, Jean Guiard, qui était un élève de Maurice Lénard, disait à l'inverse que Maurice Lénard avait vraiment compris la culture kanak parce que, en tant que missionnaire, il avait cette sensibilité à la spiritualité, à la notion de sacré, et donc il avait au contraire cette intuition et cette affinité avec la culture kanak.
En tout cas, les kanaks ne se soucient pas nécessairement de ces querelles de spécialistes, ils sont reconnaissants à Maurice Lénard d'avoir été un des artisans de leur survie. Lénard qui disait « Nous avions vu les gens de la Grande Terre se ressaisir et vouloir vivre ». C'est ce qui a importé à Lénard. Mais il était aussi habité par le souci qu'aucune des communautés de cet archipel si divers ne l'emporte sur l'autre. Chacune a des droits à faire valoir. Merci à Frédéric Rognon qui a publié un grand livre chez Olivetan sur Maurice Lénard. À Matteo Gallo, anthropologue italien. À Hassan Roulou et à Vincent Guiguenot. La prise de son Célestin Navarro. Les lectures Grégoire Roqueplot à la Maison de la Radio et de la Musique Anne-Laure Cochet. Les agents d'intelligence service Frédéric Martin et Franck Olivard. La réalisation, Audrey Ripouille.